Spinoza, éthique, partie 4, proposition 59, jusqu'à l'appendice, fichier 15. Proposition 59. À toutes les actions auxquelles nous sommes déterminés par une affection qui est une passion, nous pouvons être déterminés sans elle par la raison. Démonstration. Agir par raison n'est rien d'autre, proposition 3 et définition 2, partie 3, que faire ces actions qui suivent de la nécessité de notre nature, considérée en elle seule. Mais la tristesse est mauvaise en tant qu'elle diminue ou réduit cette puissance d'agir, proposition 41. Nous ne pouvons donc être déterminés par cette affection à aucune action que nous ne pourrions accomplir si nous étions conduits par la raison. De plus, la joie est mauvaise en tant qu'elle empêche que l'homme ne soit apte à agir. Propositions 41 et 43. Nous ne pouvons donc être déterminés par elle à aucune action que nous ne pourrions accomplir si nous étions conduits par la raison. Enfin, en tant que la joie est bonne, elle s'accorde avec la raison, car elle consiste en ce que la puissance d'agir de l'homme est accrue ou secondée. Et elle n'est pas une passion, si ce n'est en tant que la puissance d'agir de l'homme n'est pas accrue à ce point qu'il se conçoive lui-même et conçoive ses propres actions adéquatement. Proposition 3, partie 3, avec le Scoli. Si donc un homme affecté de joie était conduit à une perfection telle qu'il se conçut lui-même et conçut ses propres actions adéquatement, il serait apte aux mêmes actions auxquelles le détermine dans son état présent les affections qui sont des passions. Il y serait même plus apte. Mais toutes les affections se ramènent à la joie, à la tristesse ou au désir. Voir explication de la quatrième définition des affections. Et le désir, définition des affections 1, n'est rien d'autre que l'effort même pour agir. À toutes les actions donc auxquelles nous sommes déterminés par une affection qui est une passion, nous pouvons sans elle être conduits par la seule raison. CQFD. Autre démonstration. Une action quelconque est dite mauvaise en tant qu'elle tire son origine de ce que nous sommes affectés de haine ou de quelque affection mauvaise. Corollaire 1 de la proposition 45. Mais nulle action considérée en elle-même n'est bonne ni mauvaise, comme nous l'avons montré dans la préface de cette partie. Et une seule et même action est tantôt bonne, tantôt mauvaise. Nous pouvons, donc, être conduits par la raison, proposition 19, à cette même action qui est présentement mauvaise, c'est-à-dire tire son origine d'une affection mauvaise. CQFD. Scoli. J'expliquerai plus clairement ma pensée par un exemple. L'action de frapper, en tant qu'on la considère physiquement, ayant égard seulement à ce qu'un homme lève le bras, serre le poing, émeut avec force le bras entier de haut en bas, est une vertu qui se conçoit par la structure du corps humain. Si donc un homme, dans un mouvement de haine ou de colère, est déterminé à serrer le poing ou à mouvoir le bras, cela a lieu parce qu'une seule et même action, comme nous l'avons montré dans la deuxième partie, peut être jointe à des images quelconques de choses. Nous pouvons donc être déterminés à une seule et même action, aussi bien par les images des choses que nous concevons confusément, que par celles des choses que nous concevons clairement et distinctement. Il apparaît par là que tout désir tirant son origine d'une affection qui est une passion, serait de nul usage si les hommes pouvaient être conduits par la raison. Voyons maintenant pourquoi un désir né d'une affection qui est une passion est appelé aveugle par nous. Proposition 60. Un désir tirant son origine d'une joie ou d'une tristesse, qui se rapporte à une seule des parties du corps ou à quelques-unes, mais non à toutes, n'a point égard à l'utilité de l'homme entier. Démonstration. Supposons par exemple qu'une partie A du corps, soit par la force d'une cause extérieure, rendue plus forte à ce point qu'elle l'emporte sur les autres. Proposition 6. Cette partie ne s'efforcera point pour cela de perdre ses forces pour que les autres parties du corps s'acquittent de leur office. Elle devrait, en effet, avoir la force ou la puissance de perdre ses forces, ce qui est absurde. Proposition 6, partie 3. Cette partie s'efforcera donc et conséquemment l'âme aussi, proposition 7 et 12, partie 3, s'efforcera de conserver cet état. Et par suite, le désir qui naît d'une telle affection de joie n'a pas égard au tout. Que si, au contraire, on suppose une partie A, réduite de façon que les autres l'emportent sur elle, on démontre de la même manière que le désir né de la tristesse n'a pas non plus égard au tout. C'est QFD. Scoli. Puis donc que le plus souvent, Scoli de la proposition 44, la joie se rapporte à une seule partie du corps, nous désirons le plus souvent conserver notre être sans avoir le moindre égard à la santé du corps entier. À quoi s'ajoute que les désirs qui nous tiennent le plus, corollaire de la proposition 9, ont égard au temps présent seulement, non au futur. Proposition 61. Un désir tirant son origine de la raison ne peut avoir d'excès. Démonstration. Le désir considéré absolument, définition 1 des affections, est l'essence même de l'homme en tant qu'on le conçoit comme déterminé à quelque action. Un désir, donc, tirant son origine de la raison, c'est-à-dire proposition 3, partie 3, se produisant en nous en tant que nous agissons, est l'essence même ou la nature de l'homme en tant qu'elle est conçue comme déterminée à faire ce qui se conçoit adéquatement par la seule essence de l'homme. Définition 2, partie 3. Si donc ce désir pouvait être excessif, la nature humaine, considérée en elle seule, pourrait s'excéder elle-même. Autrement dit, pourrait plus qu'elle ne peut, ce qui est une contradiction manifeste. En conséquence, un tel désir ne peut avoir d'excès. C'est QFD. Proposition 62. En tant que l'âme conçoit les choses suivant le commandement de la raison, elle est également affectée, que l'idée soit celle d'une chose future ou passée, ou celle d'une chose présente. Démonstration. Tout ce que l'âme conçoit conduite par la raison, elle le conçoit comme possédant une même sorte d'éternité ou de nécessité. Corollaire 2 de la proposition 44, partie 2. Et elle est, en le concevant, affectée de la même certitude. Proposition 43, partie 2, avec son scoli. Que l'idée donc soit celle d'une chose future ou passée ou celle d'une chose présente, l'âme conçoit la chose avec la même nécessité et est affectée de la même certitude. Et que l'idée ait pour objet une chose future ou passée ou une chose présente, elle n'en sera pas moins également vraie. Proposition 41, partie 2. C'est-à-dire, définition 4, partie 2, qu'elle n'en aura pas moins toujours les mêmes propriétés de l'idée adéquate. Et ainsi, en tant que l'âme conçoit les choses sous le commandement de la raison, elle est affectée de la même manière que l'idée soit celle d'une chose future ou passée, ou celle d'une chose présente. C'est QFD. Scoli. Si nous pouvions avoir une connaissance adéquate de la durée des choses et déterminer par la raison leur temps d'existence, nous considérerions les choses futures et les présentes affectées du même sentiment, et le bien que l'âme concevrait comme futur, elle l'appéterait comme un bien présent. Par suite, elle négligerait nécessairement un bien présent moindre pour un bien futur plus grand, et elle appéterait fort peu une chose qui serait bonne dans le présent, mais cause d'un mal futur, comme nous le démontrerons bientôt. Mais nous ne pouvons avoir de la durée des choses, proposition 31 partie 2, qu'une connaissance extrêmement inadéquate, et nous déterminons, Scoli de la proposition 44 partie 2, le temps d'existence des choses par l'imagination seule, qui n'est pas également affectée par l'image d'une chose présente et d'une future. De là vient que la connaissance vraie du bien et du mal que nous avons n'est rien qu'abstraite au général, et que le jugement porté par nous sur l'ordre des choses et la liaison des causes, pour nous permettre de déterminer ce qui dans le présent est bon ou mauvais pour nous, est fondé plutôt sur l'imagination que sur la réalité. Il n'y a donc pas à s'étonner que le désir né de cette connaissance du bien et du mal relative au futur puisse être réduit assez facilement par le désir des choses présentement agréables. Voir à ce sujet la proposition 16. Proposition 63. Qui est dirigé par la crainte et fait ce qui est bon pour éviter un mal n'est pas conduit par la raison. Démonstration. Toutes les affections se rapportant à l'âme, en tant qu'elle est active, c'est-à-dire à la raison, proposition 3, partie 3, ne sont autres que des affections de joie et de désir, proposition 59, partie 3. Celui donc qui est dirigé par la crainte, définition 13 des affections, et fait ce qui est bon par peur d'un mal, n'est pas conduit par la raison. C'est QFD. Scoli. Les superstitieux qui savent flétrir les vices plutôt qu'enseigner les vertus, et qui, cherchant non à conduire les hommes par la raison, mais à les contenir par la crainte, leur font fuir le mal sans aimer les vertus, ne tendent à rien d'autre qu'à rendre les autres aussi misérables qu'eux-mêmes. Il n'est donc pas étonnant qu'ils soient le plus souvent insupportables et odieux aux hommes. Corollaire. Par un désir qui rend son origine de la raison, nous poursuivons le bien directement et fuyons le mal indirectement. Démonstration. Un désir tirant son origine de la raison peut naître seulement d'une affection de joie qui n'est pas une passion. Proposition 59, partie 3, c'est-à-dire d'une joie qui ne peut avoir d'excès, proposition 61, et non d'une tristesse. Ce désir, par suite, proposition 8, naît de la connaissance du bien, non de celle du mal. Nous appétons donc, sous la conduite de la raison, le bien directement et, en cette mesure seulement, fuyons le mal. C'est QFD. Scoli. Ce corollaire s'explique par l'exemple du malade et du valide. Le malade absorbe ce qu'il a en aversion par peur de la mort. Le valide tire satisfaction de la nourriture et jouit ainsi de la vie mieux que s'il avait peur de la mort et désira l'écarter directement. De même, un juge, qui non par haine ou colère, etc., mais par seul amour du salut public, condamne un coupable à mort, est conduit par la seule raison. Proposition 64. La connaissance d'un mal est une connaissance inadéquate. Démonstration. La connaissance d'un mal, proposition 8, est la tristesse même en tant que nous en avons conscience. Mais la tristesse est un passage à une perfection moindre. Définition 3 des affections. Qui, pour cette raison, ne peut se connaître par l'essence même de l'homme. Propositions 6 et 7, partie 3. Par suite, définition 2, partie 3, elle est une passion qui, proposition 3, partie 3, dépend d'idées inadéquates. Conséquemment, proposition 29, partie 2, la connaissance en est inadéquate, c'est-à-dire que la connaissance d'un mal est inadéquate. C'est QFD. Corollaire. Il suit de là que, si l'âme humaine n'avait que des idées adéquates, elle ne formerait aucune notion de choses mauvaises. Proposition 65. De deux biens, nous rechercherons sous la conduite de la raison le plus grand, et de deux maux, le moindre. Démonstration. Un bien qui empêche que nous ne jouissions d'un bien plus grand est en réalité un mal, car mauvais et bon, comme nous l'avons montré dans la préface de cette partie, se disent des choses en tant que nous les comparons entre elles. Et un mal moindre est en réalité un bien, pour la même raison. C'est pourquoi, corollaire de la proposition 63, sous la conduite de la raison, nous appéterons ou rechercherons seulement un bien plus grand et un mal moindre. C'est QFD. Corollaire. Nous rechercherons sous la conduite de la raison un mal moindre pour un plus grand bien et renoncerons à un bien moindre qui est cause d'un mal plus grand, car le mal appelé ici moindre est en réalité un bien et le bien, inversement, un mal. Nous appéterons donc le mal, corollaire de la proposition 63, et renonceront au bien, CQFD. Proposition 66. Nous préférerons, sous la conduite de la raison, un bien plus grand futur à un moindre présent, et un mal moindre présent à un plus grand futur. Démonstration. Si l'âme pouvait avoir d'une chose future une connaissance adéquate, elle serait affectée de même à l'égard d'une chose future et d'une présente. Proposition 62. En tant par suite que nous avons égard à la raison même, comme nous le supposons dans cette proposition, la situation est la même. Qu'il s'agisse d'un bien plus grand ou d'un mal plus grand futur, ou d'un présent. Par suite, proposition 65, nous préférerons un bien plus grand futur à un moindre présent, etc. CQFD. Corollaire. Nous appéterons, sous la conduite de la raison, un mal moindre présent qui est cause d'un bien plus grand futur, et nous renoncerons à un bien moindre présent qui est cause d'un mal plus grand futur. Ce corollaire est avec la proposition précédente dans le même rapport que le corollaire de la proposition 65 avec la proposition 65. Scoli. Rapprochant ce qui précède de ce que nous avons dit dans cette partie jusqu'à la proposition 18, au sujet des forces des affections. Nous verrons facilement en quoi un homme conduit par l'affection seule ou l'opinion diffère d'un homme conduit par la raison. Le premier, qu'il le veuille ou non, ne sait en aucune façon ce qu'il fait. Le second n'a à plaire qu'à lui-même et fait seulement ce qu'il sait qui tient la première place dans la vie et qu'il désire le plus pour cette raison. J'appelle en conséquence le premier serf, le second libre, et je veux faire ici quelques observations encore sur la complexion de ce dernier et sa règle de vie. Proposition 67. Un homme libre ne pense à aucune chose moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie. Démonstration. Un homme libre, c'est-à-dire qui vit suivant le seul commandement de la raison, n'est pas dirigé par la crainte de la mort. Proposition 63. Mais désire ce qui est bon directement, corollaire de la même proposition. C'est-à-dire, proposition 24, désire agir, vivre, conserver son être, suivant le principe de la recherche de l'utile propre. Par suite, il ne pense à aucune chose moins qu'à sa mort, et sa sagesse est une méditation de la vie. C'est QFD. Proposition 68. Si les hommes naissaient libres, ils ne formeraient aucun concept de choses bonnes ou mauvaises aussi longtemps qu'ils seraient libres. Démonstration. J'ai dit que celui-là est libre qui est conduit par la seule raison. Qui donc n'est libre et le demeure, n'a que des idées adéquates. Par suite, il n'a aucun concept de choses mauvaises, corollaire de la proposition 64. Et conséquemment aussi, bien et mal étant corrélatifs, de choses bonnes. CQFD. Scoli. Que l'hypothèse de cette proposition est fausse et ne peut se concevoir qu'autant qu'on considère la nature humaine seule, ou plutôt Dieu, non en tant qu'il est infini, mais en tant seulement qu'il est la cause pourquoi l'homme existe, cela est évident par la proposition 4. C'est là, avec d'autres vérités, par nous déjà démontrées, ce que Moïse paraît avoir voulu signifier dans cette histoire du premier homme. Il n'y conçoit en effet d'autre puissance de Dieu que celle qui lui sert à créer l'homme, c'est-à-dire une puissance pourvoyant uniquement à l'utilité de l'homme. Et suivant cette conception, il raconte que Dieu a interdit à l'homme libre de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que sitôt qu'il en mangerait, il devrait craindre la mort plutôt que désirer vivre. Puis, qu'ayant trouvé la femme qui s'accordait pleinement avec sa nature, l'homme connut n'y avoir rien dans la nature qui pût lui être plus utile. Mais, qu'ayant cru les bêtes semblables à lui, il a commencé tout aussitôt d'imiter leurs affections, voir proposition 27, partie 3, et de perdre sa liberté. Liberté recouvrée plus tard par les patriarches sous la conduite de l'Esprit du Christ, c'est-à-dire de l'idée de Dieu de laquelle seul dépend que l'homme soit libre, et qu'il désire pour les autres hommes le bien qu'il désire pour lui-même, comme nous l'avons démontré plus haut. Proposition 37. Proposition 69. La vertu d'un homme libre se montre aussi grande quand il évite les dangers que quand il en triomphe. Démonstration. Une affection ne peut être réduite ni ôtée que par une affection contraire et plus forte que l'affection à réduire. Proposition 7. Or, l'audace aveugle et la crainte sont des affections que l'on peut concevoir également grandes. Proposition 5 et 3. Une vertu ou force d'âme, voir la définition dans le scoli de la proposition 59 partie 3, aussi grande, est donc requise pour réduire l'audace que pour réduire la crainte, c'est-à-dire, définition 40 et 41 des affections, qu'un homme libre évite les périls par la même vertu qui fait qu'il tente d'en triompher. CQFD. Corollaire. Dans un homme libre, donc, la fuite opportune et le combat témoignent d'une égale fermeté d'âme. Autrement dit, l'homme libre choisit la fuite avec la même fermeté d'âme ou présence d'esprit que le combat. Scoli. J'ai expliqué ce qu'est la fermeté d'âme, ou ce que j'entends par là, dans le scoli de la proposition 59, partie 3. Quant au péril, j'entends par là tout ce qui peut être cause de quelque mal, tel que tristesse, haine, discorde, etc. Proposition 70. L'homme libre qui vit parmi les ignorants s'applique autant qu'il peut à éviter leurs bienfaits. Démonstration. Chacun juge selon sa complexion quelle chose est bonne. Scoli de la proposition 39, partie 3. L'ignorant donc, qui a fait quelque bien à quelqu'un, l'estimera selon sa complexion, et s'il voit ce bienfait tenu en moindre estime par celui qui le reçoit, il sera contristé. Proposition 42, partie 3. L'homme libre, d'autre part, s'applique à établir entre les autres hommes et lui un lien d'amitié. Proposition 37. Et non à leur rendre des bienfaits qui, dans leur propre opinion, soient jugés égaux, mais à se conduire et à conduire les autres, suivant le libre jugement de la raison, et à faire seulement ce qu'il sait tenir la première place. L'homme libre donc, pour ne pas être en haine aux ignorants et ne pas déférer à leur appétit, mais à la raison seule, s'efforcera autant que possible d'éviter leurs bienfaits. C'est QFD. Scoli. Je dis autant que possible. Bien qu'ignorants en effet, ce sont des hommes pouvant, en cas de besoin, apporter un secours d'homme, et il n'en est pas de plus précieux. Ainsi, arrive-t-il souvent qu'il est nécessaire de recevoir d'eux un bienfait et de s'en montrer reconnaissant suivant leur propre complexion. À quoi s'ajoute que, même en évitant leurs bienfaits, nous devons être prudents, de façon que nous ne paraissions pas les mépriser, ou craindre par avarice, d'avoir à leur rendre l'équivalent, sans quoi, pour éviter d'être pris en haine par eux, nous les offenserions. Il faut donc, en évitant les bienfaits, avoir égard à l'utile et à l'honnête. Proposition 71. Seuls les hommes libres sont très reconnaissants les uns à l'égard des autres. Démonstration. Seuls les hommes libres sont pleinement utiles les uns aux autres et liés entre eux par une amitié tout à fait étroite. Proposition 35 avec le corollaire 1. Seuls ils s'efforcent de se faire du bien mutuellement avec un même zèle amical. Proposition 37. Et par suite, définition 34 des affections, seuls les hommes libres sont très reconnaissants les uns à l'égard des autres. C'est QFD. Scoli. La reconnaissance compte entre eux les hommes dirigés par le désir aveugle, et la plupart du temps, plutôt un trafic ou une piperie que de la reconnaissance. Pour l'ingratitude, elle n'est pas une affection. Elle est cependant vilaine, parce qu'elle indique le plus souvent qu'un homme est affecté d'une haine excessive, de colère, d'orgueil ou d'avarice, etc. Celui, en effet, qui, par sottise, ne sait pas rendre l'équivalent des dons qu'il a reçus n'est pas un ingrat. Encore bien moins, celui de qui les dons d'une courtisane ne font pas l'instrument docile de sa lubricité, ceux d'un voleur, un receleur de ses larcins, ou sur qui les dons d'une autre personne semblable n'ont pas l'effet qu'elle en attend. Au contraire, on fait preuve de constance d'âme en ne se laissant pas séduire par des dons corrupteurs à sa propre perte ou à la perte commune. Proposition 72. L'homme libre n'agit jamais en trompeur, mais toujours de bonne foi. Démonstration. Si un homme libre agissait, en tant que libre, en trompeur, il le ferait par le commandement de la raison. Nous ne l'appelons libre qu'à cette condition. Tromper serait donc une vertu, proposition 24, et conséquemment, même proposition, il serait bien avisé à chacun de tromper pour conserver son être. C'est-à-dire, comme il est connu de soi, il serait bien avisé aux hommes de s'accorder seulement en parole et d'être en réalité contraires les uns aux autres, ce qui, corollaire de la proposition 31, est absurde, donc un homme libre, etc., CQFD. Scoli. Demande-t-on si, en cas qu'un homme mûr pût se délivrer par la mauvaise foi d'un péril de mort imminent, la règle de conservation de l'être propre ne commanderait pas nettement la mauvaise foi. Je réponds, de même, si la raison commande cela, elle le commande donc à tous les hommes, et ainsi, la raison commande d'une manière générale à tous les hommes de ne conclure entre eux, pour l'union de leurs forces et l'établissement des droits communs, que des accords trompeurs, c'est-à-dire commande de n'avoir pas en réalité de droits communs. Mais cela est absurde. Proposition 73. L'homme qui est dirigé par la raison est plus libre dans la cité où il vit selon le décret commun que dans la solitude où il n'obéit qu'à lui-même. Démonstration. L'homme qui est dirigé par la raison n'est pas conduit par la crainte à obéir, proposition 63. Mais en tant qu'il s'efforce de conserver son être suivant le commandement de la raison, c'est-à-dire, scoli de la proposition 66, en tant qu'il s'efforce de vivre librement, il désire observer la règle de la vie et de l'utilité commune, proposition 37. Et en conséquence, nous l'avons montré dans le scoli 2 de la proposition 37, vivre suivant le décret commun de la cité. L'homme qui est dirigé par la raison désire donc, pour vivre plus librement, observer le droit commun de la cité. CQFD. Scoli. Cette proposition et les autres principes établis au sujet de la vraie liberté de l'homme se rapportent à la fermeté d'âme, c'est-à-dire, scoli de la proposition 59, partie 3, à la force d'âme et à la générosité. Je ne juge pas qu'il vaille la peine de démontrer ici séparément toutes les propriétés de la force d'âme, et encore bien moins qu'un homme à l'âme forte n'a personne en haine, n'a de colère, d'envie, d'indignation à l'égard de personne, ne mésestime personne et n'a aucun orgueil. Cela, en effet, et tout ce qui concerne la vie vraie et la religion, s'établit aisément par les propositions 37 et 46. Je veux dire que la haine doit être vaincue par l'amour et que quiconque est conduit par la raison désire pour les autres ce qu'il espère pour lui-même. À quoi s'ajoute ce que nous avons observé dans le scoli de la proposition 50 et en d'autres endroits, qu'un homme d'âme forte considère avant tout que tout suit de la nécessité de la nature divine, que par suite, tout ce qu'il pense être insupportable et mauvais, et tout ce qui, en outre, lui paraît immoral, digne d'horreur, injuste et vilain, cela provient de ce qu'il conçoit les choses d'une façon troublée, mutilée et confuse. Pour cette raison, il s'efforce avant tout de concevoir les choses comme elles sont en elles-mêmes et d'écarter les empêchements à la connaissance vraie, tels que la haine, la colère, l'envie, la raillerie, l'orgueil et autres semblables notés dans ce qui précède. Par suite, autant qu'il peut, il s'efforce, comme nous l'avons dit, de bien faire et de se tenir en joie. Jusqu'à quel point maintenant l'humaine vertu y parvient et quel est son pouvoir, c'est ce que je démontrerai dans la partie suivante.